Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Avons-nous vu un bon film ? C'est la question que nous posons chaque semaine dans Cinérama. Et aujourd'hui, nous avons vu au moins 4 films. Et toi, tu en as vu 2, Marine.
Oui, et j'en ai vu 2 des bons. Et je vais vous parler d'un film australien et d'un film roumain. Et alors, les deux tournent autour d'une adolescente de 14 ans, mais vous allez voir, pas du tout pour les mêmes raisons, en fait.
Et puis toi, Manu, tu as vu un western crépusculaire, gothique, un peu de tout ça.
Oui, une sorte de patchwork européen, un film européen, à la limite entre le western italien, on va dire, et puis effectivement le cinéma gothique, réalisé par un cinéaste néerlandais, Martin Colloven. Le film s'appelle Brimstone.
Et puis, ça, ce sont des films qui sont déjà sur les écrans, mais un film va sortir le 29 mars. C'est le dernier film d'Arnaud Despalières. Il s'intitule Orpheline. C'est avec Adèle Hanel et Adèle Exarchopoulos, notamment, parce que c'est la trajectoire d'une fille à 4 moments de sa vie. Donc, on imagine qu'il y a encore deux autres femmes. Et ce sera l'occasion d'écouter Arnaud Despalières qu'on a pu rencontrer. Et on a pu rencontrer aussi Sergi Lopez, toujours un plaisir de l'écouter. Et il était là avec son réalisateur. Parce qu'il joue un rôle dans ce film qui, certes, est dédié aux femmes, mais les hommes ont quand même des tout petits rôles, mais ont quand même une importance dans ce film. C'est ainsi que débute Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
You have no idea, do you?
Bonsoir, Greta.
Adios, ma chérie.
Et on commence donc avec Fantastic Birthday de Rosemary Myers. Greta a 14 ans, elle vient d'emménager dans une nouvelle ville et a bien du mal à s'intégrer dans son nouveau collège. Elle a les problèmes habituels des gens de son âge. Elle se fait persécuter par les filles populaires de son école, sa mère est dépressive, son père lui fout la honte et sa sœur se rebelle contre l'autorité. Elliot, le seul élève qui accepte de devenir son ami, a une idée, organiser contre son gré son anniversaire et inviter tous leurs camarades de classe. Mais cet anniversaire va se transformer en songe et être le point de départ d'un voyage initiatique, pour le moins étrange, dans une inquiétante forêt, au cours duquel Greta devra affronter ses propres peurs sous les traits de personnages tous plus farfelus les uns que les autres. Alors on a beaucoup comparé le film à du Wes Anderson. Bon, en même temps, dès qu'on a des personnages excentriques habillés avec des couleurs vives, on cite Wes Anderson. Le film, en réalité, fait plus penser à du Greg Araki pour l'intrusion du fantastique dans le quotidien, pour le traitement très pop des fantasmes adolescents et pour l'ambiance de conte de fées un peu dégénérée. Fantastic Birthday, en réalité... intitulé The Girl Asleep, s'avère une version disco de Alice au Pays des Merveilles, dans laquelle on comprend vite que toutes les fantaisies vont être permises. Les photos s'animent, les personnages improvisent des chorégraphies, tout cela dans un format 5 tiers. On écoute un morceau de la bande originale. L'inventivité est à son maximum, c'est un enchantement de chaque instant puisque le rythme ne faiblit jamais. Sautillant, enlevé, le film nous embarque avec l'héroïne dans ce qui est une véritable friandise cinématographique. Entre le théâtre de marionnettes, le recours à la technique du stop motion, le film déborde de créativité et les techniques utilisées sont autant d'hommages inspirés au cinéma d'antan. Rosemary Myers, la réalisatrice, accorde également un soin maniaque à la construction de son cadre. On a fréquemment une grande profondeur de champ avec plusieurs actions dans le même cadre. Tout est vraiment pensé dans les moindres détails et le film vous oblige à être un spectateur actif car il vous faut sans cesse observer pour percevoir la multitude comme ça de petits détails dans chaque image. Si bien que Fantastic Birthday réussit à nous surprendre vraiment de bout en bout. Et si l'ambiance est résolument disco, comme on a pu l'entendre, eh bien, nul ne sait réellement en quelle année se passe l'action. Les décors kitsch, les costumes vintage conjugués à des anachronismes en cascade achèvent de brouiller les pistes pour finalement aboutir à un film plutôt intemporel, comme le sont les fables. Et comme une fable, le film jongle avec les paraboles et les métaphores comme les fables. Le film est court, 1h20, et donc c'est, voilà, c'est la dernière de ses qualités, et c'est pas la seule, parce qu'il n'a que des qualités, en fait. Mmh. J'adorais ce film.
Il n'y a pas de gras, mais si on pense au disco, quand même, normalement, c'est plutôt les années, fin années 70, début 80, non ?
Bah, c'est ça, mais il y a aussi un côté qui fait très années 60 dans le film, il y a aussi un côté très moderne. En fait, on ne sait jamais vraiment en quelle année ça se passe, et je pense que c'est totalement volontaire.
Enfin, vu la touche des parents, pour avoir vu la bande-annonce, j'imagine quand même que c'est, oui, fin années 60, début 70, oui, ça c'est sûr. On passe au western dans Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans ne sont que des loups voraces. Jésus est le berger qui vous protège, et moi, je suis son chien.
D'emblée, ça plombe quand même. Hein, je veux pas
c'est
dire,
un peu étrange.
Mais c'est un peu à l'image du film, hein, toutefois. Alors, fin 19e siècle, dans l'Ouest américain, Liz, une jeune femme muette d'une vingtaine d'années, hein, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un terrifiant prêcheur leur rend visite.
C'est lui qu'on entend ?
C'est lui qu'on entend, hein, ça, vous pouvez vous en douter. Hein. Ce dernier ne semble pas vraiment là pour proférer de bonnes paroles, malgré les apparences. Alors Liz devra prendre la fuite, hein, face à cet homme qui la traque sans répit depuis l'enfance.
On croit que ce sont les flammes qui rendent l'enfer insupportable. C'est faux. La vraie douleur, c'est l'absence d'amour.
Je me souviens bien d'elle. C'était une guerrière.
Alors découpé pompeusement en 4 chapitres, Apocalypse, Exodus, Genesis et Rétribution, rien que ça, Brimstone est un western post-moderne, sombre et dense, bénéficiant de somptueux décors et d'une photographie magnifique. Les premières minutes sont même impressionnantes, hein, on est plongé au cœur d'une Amérique inquiétante, dominée par le poids des superstitions. L'arrivée du nouveau prédicateur est même digne des meilleurs films d'horreur. L'ambiance est pesante, générant une angoisse diffuse. Le contraste entre les espaces extérieurs dignes des plus grands westerns élégiaques et les intérieurs austères offre un contraste saisissant. La prestation aussi de la jeune héroïne, Dakota Fanning, dans un rôle pas facile à tenir et très convaincante. Alors pourquoi le film ne fonctionne-t-il pas ? Alors trop long, hein, sûrement. 2h28 pour une histoire semée d'invraisemblances qui aurait mérité quelques coupes franches. Mais au fond, ce n'est pas tant la durée qui pose un réel problème, mais plutôt son simplisme, son lot de clichés, de symbolisme religieux appuyé et dans sa représentation complaisante de la violence à la limite du supportable. Alors on a vu pire, ça, c'est certain, hein, mais Martin Colloven, cinéaste néerlandais, use et abuse de cette violence graphique à des fins simplistes. Certes, le réalisateur dénonce le sort réservé aux femmes en cette période dominée par le pouvoir patriarcal et particulièrement religieux, mais il y a une telle fascination envers cette brutalité visuelle que le message se retourne contre lui. Alors langue arrachée, un viol, animaux déchiquetés, crâne fracassé, alors rien ne manque à l'appel. Hein. L'amateur du genre peut prendre un plaisir, un peu coupable, au spectacle, mais cet étalage d'atrocité paraît parfois déplacé. L'ambition de surface cache en fait un objet vide qui pourrait être sympathique comme pur film d'exploitation se vautrant dans le voyeurisme et le sadisme exacerbé. Sauf que Brimstone se veut clairement une œuvre crépusculaire dans le sillage de, on peut penser parfois impitoyable, mais surtout à la nuit du chasseur. Mais il en oublie toute la dimension métaphysique, toute la complexité du récit initiatique du chef-d'œuvre de Charlton. Le prêtre incarné par Guy Pearce qui a oublié d'être sobre, et c'est un euphémisme, hein, si on entend un peu. Mais c'est pas que de sa faute, hein, je pense que les dialogues sont assez responsables de son jeu. Hein. Alors, incarnation du mal à l'état pur n'est qu'une figure abstraite, un personnage de foire, hein, sans aucune dimension humaine. Or, tout méchant au cinéma se doit d'avoir quand même une épaisseur, sinon, autant filmer de vrais monstres pour qui on a parfois davantage de compassion. Alors évidemment, le réalisateur ne loue pas le chapitre de la pédophilie et flirte parfois avec l'écœurement. Ça, c'était un peu le cliché inhérent à ce type de film quand même. Hein. Alors c'est d'autant plus dommage que certaines scènes sont très belles, filmées dans un superbe scope. Il y a une vraie ambiance, il y a un style visuel à mi-chemin du film d'épouvante gothique et du western italien. Alors Martin Colloven, hein, a du talent, hein, jusque dans la construction d'un récit réfutant la linéarité, un peu dans la lignée de certains films de Tarantino. Mais les boursouflures formelles et le manichéisme des situations font juste une série B de luxe, parfois impressionnante, mais souvent déplaisante et suffisante. Et puis pour une info dont on se fout royalement, le film a été présenté au festival de Venise et il n'a rien eu. Voilà.
Et ça n'a pas l'air de t'étonner.
Non, voilà. C'est... Non, parce qu'apparemment, il comptait. C'était une coproduction assez imposante qui comptait récolter un prix.
Bon, en même temps, d'après ce que tu dis, s'il y a un côté esthétique et une complaisance à la violence qui peut être, fonctionner de pair dans la production cinématographique actuelle, je ne pense pas que ça peut obtenir grand-chose.
Non. Le film, il est trop hybride aussi. Il n'est pas assez sérieux. On ne peut pas le prendre assez au sérieux pour un film d'auteur. Et c'est pas assez, je dirais, pas assez virtuose pour égaler un cinéma à la Tarantino non plus.
Donc, western crépusculaire, gothique.
Voilà,
vaguement.
C'est un peu ça, vaguement. Ouais. C'est un peu n'importe quoi, en fait.
Eh bien, on va passer à toute autre chose. C'est l'interview de cette émission. C'est un gros morceau. Enfin, je l'ai voulu comme tel, en tout cas, puisqu'on va parler d'Arnaud Despalières et de son film Orpheline.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Orpheline est le nouveau film d'Arnaud Despalières, réalisateur français qui n'a pas fait tant de films que ça, ou plutôt, eh bien, il a fait bien plus de documentaires que de fiction. Alors, on compte Adieu, en 2003, qui raconte deux histoires. Le parcours d'un immigré quittant l'Algérie, où il est menacé pour l'Angleterre, au travers du récit de Jonas et de la baleine. En contrepoint de ce récit, eh bien, on vit le deuil d'une famille de paysans du centre de la France qui a perdu le plus jeune d'entre eux. On écoute un extrait.
Si vous voulez bien, on discutera de ça une autre fois.
Les preuves de l'existence de Dieu sont la preuve que Dieu n'existe pas. Puisqu'on utilise tant de preuves. N'est-ce pas, monsieur le curé ?
Écoute. Monsieur le curé est fatigué.
Monsieur le curé est fatigué. Monsieur le curé est trop fatigué pour répondre quand on lui demande s'il y a une preuve de l'existence de Dieu.
Non, il n'y a pas de l'aspirine.
Non, bien sûr, il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait ça, enfin.
Alors si, chers auditeurs, vous avez pu mettre votre casque à fond ou alors vos enceintes d'autoradio à fond, eh bien vous aurez peut-être entendu la qualité sonore de cette séquence. On entend des chiens, parce qu'on est dans une ferme, et on entend des chiens alors au loin, et puis à droite, et puis à gauche, il y a une autre composition sonore. C'est vraiment un trait particulier d'Arnaud Despalières, et d'ailleurs il a remporté le César du meilleur son pour un autre film, Michael Colas, dont je vous parlerai un peu plus tard. En 2006, il fait Parc, il réunit Jean-Marc Barre et Sergi Lopez qui interprètent l'un Georges Clou et l'autre Paul Marteau dans une banlieue résidentielle pour y crucifier l'idéal du bonheur de l'homme occidental. Monsieur Marteau, alors lui, passe son temps à tomber amoureux de n'importe qui et c'est sa compagne qui en parle.
Il vous a raconté qu'il était tombé amoureux d'un enfant une fois ? Un garçon de 9 ans. Mon mari a passé 2 jours entiers à jouer à la balle et à tenir la main d'un petit garçon de 9 ans. Vous pouvez imaginer ça. Tu m'as dit que t'avais ressenti de l'amour. Ose dire le contraire. D'un chien aussi. Un collet. Le chien d'ami à lui pendant les vacances. Mâle ou femelle, mon chéri. Ils dormaient ensemble. Quand ils se sont quittés, c'était comme perdre une femme qu'il aimait. C'est pas ce que tu m'as dit.
Ce n'est qu'un petit extrait d'une longue séquence, puisque effectivement Jean-Marc Barre tombe amoureux de beaucoup de personnes, et là ce n'était que la fin du récit de sa compagne. Et on entend aussi que l'ambiance est totalement différente, là c'est accompagné de musique avec une voix plutôt intimiste. Alors, enfin, en 2013, il signe Michael Colas avec Mads Mikkelsen interprétant un vendeur de chevaux, victime d'une injustice d'un seigneur, et qui transforme le pays en poudrière pour obtenir réparation. Un film qui concourra en compétition officielle à Cannes, et là aussi, sans rien obtenir.
Ah, sans rien non plus, oui.
Voilà.
Tu ne sais pas qu'il y a des moyens de vaincre la mort. Chaque espèce vivante en a un. De la fourmi à l'homme. Toi, tu es le plus simple. Ne pas tuer. La mort est un choix. Qui ne tue pas, ne meurt pas.
J'assiste encore, hein, mais c'est donc ce film qui a obtenu le César du meilleur son. Et là, on entend le vent, effectivement, qui passe dans les micros. À noter que c'est un film qui a été tourné dans les Cévennes et qu'effectivement, il y a une part belle quand même au paysage et puis il y a cet aspect venteux de la région. De Palière fait partie de ces cinéastes exigeants qui donnent à voir des films radicaux, toujours admirablement construits avec des partis pris de mise en scène. On n'est jamais devant un film aimable, timide ou au contraire racoleur. Pour Orpheline, c'est la première fois dans une fiction où il s'intéresse au parcours d'une femme. Il s'agit plus exactement de quatre femmes, car Arnaud De Palière a fait le choix de prendre quatre âges de la vie de cette femme et de construire une fiction à rebours. Il commence par la jeune femme au présent et revient dans le passé pour nous la montrer à 20 ans, à 13 ans et toute petite fille, et pour ensuite revenir au présent. La même héroïne est incarnée par quatre actrices différentes donc, et il y a deux Adèles qui ont eu le César du meilleur espoir, d'abord Adèle Haenel, puis Adèle Exarchopoulos. C'est évidemment alors étrange au premier abord de considérer qu'elles ne sont pas sœurs, mais bien les mêmes dans le film. Il est difficile de résumer Orpheline. Pour construire son récit, Arnaud Despalières s'est inspiré de la vie de sa scénariste, Christelle Berthevas. On peut se contenter de dire qu'il s'agit du portrait d'une femme qui tente d'échapper à un déterminisme social, comme il va nous l'expliquer. Et à chaque âge de la vie, elle va avoir une manière d'aborder les rencontres et les autres de différentes manières. Les femmes ne sont pas seules dans Orpheline. Les hommes sont évidemment présents. Alors, ils ont un tout petit rôle et tout aussi paumés. On y croise notamment Sergi Lopez et Nicolas Duvauchel, ce dernier interprétant lui aussi deux facettes d'une même existence. On écoute Arnaud Despalières nous parler donc d'Orpheline.
Vous êtes Karine Rosinski, madame ?
Il y avait deux manières de faire le film. Soit je décidais que c'était important qu'elle se ressemble, et ça devenait la chose la plus importante. Je me suis posé la question, est-ce que je tiens à ce qu'elle se ressemble au point que ça doive devenir la chose la plus importante ? Ou est-ce que le plus important, c'est que ce soit la bonne actrice pour le bon rôle ? Mais j'ai pas hésité 5 secondes. Et en revanche, ce qui arrive, c'est qu'en travaillant à partir d'un centre, qui est le personnage tel qu'il m'a été transmis par Christelle Berthevas et tel que je l'ai travaillé avec chacune des actrices, quelque chose d'une énergie et de l'esprit du personnage est commun à ces quatre actrices. Et je pense qu'il peut arriver à des spectateurs, et ça, il me le retourne régulièrement, de trouver des ressemblances extrêmement fortes, mais qui sont autant des ressemblances morales que, éventuellement, parfois, des ressemblances physiques.
S'il te plaît.
T'as quel âge, toi ?
18.
Je crois pas.
16, alors ?
Depuis quand on est parti de chez vous ?
Lundi. 4 jours d'absence, ça vous inquiète pas. Fais ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça ?
Je suis pas heureuse.
Il s'agit d'un personnage qui essaie de se libérer d'un déterminisme familial et social et qui donc tente de se réinventer tout le temps. À chaque fois, elle sort d'un univers et elle en essaie un autre. Et elle essaie, à chaque fois, en fait, elle essaie de recommencer quelque chose à chaque fois. Et moi, j'avais, dans le désir de ne pas représenter de façon fétichiste, de ne pas historiciser les périodes, hein, très clairement, quand mon décorateur et ma costumière m'ont demandé, j'ai dit non, on va pas faire les années 70 pour son enfance, les années 80. Il y a des petites choses qu'on va, comment dire, on va rester dans des choses vraisemblables, donc sur l'existence de la CB, du portable, du téléphone, il y a des choses dont on essaie qu'elles ne soient pas complètement insensées, mais ça ne devient pas le centre du film, au point que je peut même laisser la possibilité à certains spectateurs que peut-être ces histoires ont lieu en même temps. Il y a plus de points d'entrée pour chaque spectateur, parce qu'au fond, c'est à la fois une femme en particulier et aussi, comme on l'espère à chaque fois qu'on raconte une histoire, toutes les femmes.
Vous voulez quoi ?
Vous évitez les mauvaises rencontres, comme un père le ferait.
Quelqu'un est riche ici.
Il y a un point qui me paraît important, et je ne sais pas si je le note par rapport à vos précédents films. Là, j'ai l'impression que tous les corps que vous montrez dans ce film-là sont très éclairés et sont un peu brutes.
Il y a un grand principe de mise en scène qui est très simple, qui est que le film est vu du point de vue du personnage principal. Voilà. Donc, j'ai pris deux décisions en cinématographie, en mise en scène, très simple. Comme le film racontait quatre époques de la vie de la vie du personnage dans quatre univers fictionnels différents, hein, ça se passe jamais au même endroit. Les personnages qui entourent le personnage central ne sont que très rarement les mêmes. Sergi en est un. Il y a trois personnages seulement qui sont communs à deux époques. Je savais que j'avais besoin de créer une unité d'écriture cinématographique. Et pour ça, j'ai eu recours à deux gestes de mise en scène très simples. Le premier a été de n'utiliser qu'un seul objectif pour filmer tout le film, de façon à ce qu'on ait l'impression que le film soit vu avec les mêmes yeux tout le temps.
C'est vrai, ça ?
Je voulais que le spectateur se sente tout le temps dans la peau du personnage principal, y compris le spectateur masculin, qui ait une, comment dire, l'expérience sensible, qui jusqu'à dans la façon de raconter l'histoire, qu'on ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, qu'on ne voit pas ce qu'elle ne voit pas. Donc, à aucun moment, la caméra va se promener ailleurs pour montrer ce que fait un autre personnage. Et donc, par exemple, si elle rencontre un personnage, eh bien, rien ne l'a préparé. Elle n'a que les effets, en fait. Elle n'a pas les causes. Donc, c'est deux manières de faire qui veulent que tout soit vu à partir de son point de vue, fait que la chose qu'on voit quasiment tout le temps, c'est les visages, les peaux, les corps, les mains, les détails, tout ce qui est extrêmement proche.
Bonjour Tara.
Vous jouez ? Bon. Tu le connais d'où ?
Une annonce sur un site.
C'est combien le maximum qu'une navette peut transporter ? 30 000.
T'es sérieuse ?
T'as jamais volé peut-être ?
C'est quoi ? Ça vient d'où ?
Des voitures.
Enfin, qui ça appartient à des gens ?
Ils sont morts.
Les deux personnages masculins qui ont la chance d'avoir un double temps ont cette chance supplémentaire quand ils ont été un sale type, dans une des deux parties, de ne pas toujours avoir été un sale type. C'est-à-dire que le film essaie de dire quelqu'un qui est mauvais à un moment dans un film n'est pas un mauvais en soi. C'est-à-dire qu'un méchant, ça n'existe pas. Voilà. Un méchant, c'est quelqu'un qui est méchant à un certain moment, qui peut ne pas avoir toujours été méchant ou ne pas le rester indéfiniment.
Ouvre la boîte à gants.
Fais demi-tour, s'il te plaît. Tu ressembles pas à la fille que j'ai connue. T'as rien fait pour nous.
Qu'est-ce qui se passe ?
Le film, en fait, raconte la difficulté de chaque sexe à n'être assigné qu'à son sexe. C'est ça que ça raconte. Les hommes sont autant dans la merde que les femmes. Voilà. Voire même plus. Parce que nous, en plus, on est du côté du personnage féminin. Je le sais, puisque c'est moi qui raconte l'histoire et je le raconte comme ça.
Police, ouvrez la porte.
C'est quoi ce bordel ?
La police, personne ne veut. Doucement !
Je reviendrai. Je te promets. Et je m'occuperai de toi.
De Karine Rosinski, madame.
N'importe quoi, c'est ma femme. Monte tes papiers.
Vous vous trompez, c'est pas elle.
Est-ce qu'ils se trompent, les policiers ? Vous le saurez en allant voir Orpheline, un film qui commence assez bizarrement, hein, parce que ça commence avec l'intérieur d'une prison. Voilà, très étonnant. Et après, ça parle de tout à fait autre chose. Voilà, on vient d'entendre Arnaud Despalières, donc le réalisateur du film. Il dit quelque chose de très intéressant dans cette interview, enfin dans la seule que j'ai eue avec lui. C'est que pour lui, les effets spéciaux, ce sont avant tout les acteurs.
Les effets spéciaux dans mon film, je le dis toujours, c'est les acteurs.
Voilà, c'est
les acteurs.
Monsieur
Lamour. Pour moi, ce qui doit être extraordinaire, c'est ce que font les acteurs devant la caméra. Ça ne tient qu'à l'actrice. Moi, je fais rien. Moi, je fais juste que la regarder faire. Elle le vit. C'est là où, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui me. Je m'amuse souvent à raconter ce petit détail de cette chose qui m'était arrivée sur. Le film Michael Colas, où je m'étais payé le luxe extraordinaire de faire naître véritablement un poulain devant la caméra. Voilà. Et je rigolais en disant, et même Spielberg, dont le cheval de guerre est le personnage principal, il fait arriver son poulain dans une coupe. Dans une coupe entre deux plans. Il dit, même avec tout l'argent qu'il a et toute sa capacité de recours aux effets spéciaux, il n'arrive pas à faire naître véritablement un poulain devant les yeux du spectateur. Je suis convaincu que la plus grande puissance du cinéma, c'est faire que les choses arrivent réellement.
Et bim, dans la tête de Steven Spielberg. Était présent aussi alors Sergi Lopez qui joue un petit rôle dans ce film. Alors on l'a vu, je vous l'ai dit, il y a quatre personnages féminins et il intervient à deux moments de la vie de cette femme. Donc c'est un tout petit rôle, certes important, mais tout petit rôle. Et là, la question qui a été posée, c'était finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on joue un si petit rôle ?
Il peut y avoir un rôle plus ou moins important, plus ou moins génial, mais dans une histoire qui ne te parle pas, tu vois, très grand, petit, c'est des concepts difficiles, faciles. Je crois que c'est comme toi quand tu lis un truc ou quand tu vois. Je crois que tu ne te poses pas ces questions comme ça. C'est qu'en fait, tu, je ne sais pas pourquoi. Enfin, déjà, il y a un rapport avec lui, avec Estelle, enfin, j'écris un scénario, le scénario c'est génial. Moi, on me demande de jouer à la petite fille, j'ai dit oui aussi, tu vois. C'est vraiment, ça m'est égal. Je suis un peu.
Ah, il fait rire tout le monde.
Non, c'était aussi hein, pour entendre sa voix, effectivement, et sa manière de parler. En tout cas, c'est toujours agréable de le voir et de la voir au micro de Cinérama. C'était Sergi Lopez et Arnaud Despalières. Et maintenant, eh bien, avec toi, Marine, on va parler d'un film roumain.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Nous sommes journalistes. Nous faisons un reportage sur le trafic de personnes en Europe.
Domnule, vă deranjează dacă vă punem două, trei întrebări? Nu durează mult, să știți. Imediat terminăm.
Est-ce que vous saviez que votre fille a été obligée de se prostituer pendant un mois et demi à Paris?
Oui, on va parler de Fixeur de Adrian Citarou. Alors, ce n'est plus un scoop. Hein. Le cinéma roumain fait preuve d'une très grande vitalité depuis quelques années. Tout cela avait commencé avec Christian Mungiu, avec son 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui avait emporté la Palme d'Or. Ça a continué, entre autres, avec Bogdan Mirița, auteur du western roumain Dogs, et bien, bien d'autres encore. Désormais, le cinéma roumain se paye même le luxe de faire travailler des comédiens français, comme c'est le cas dans Fixeur. Il est question ici de Radu, un jeune journaliste roumain qui tente de gravir les échelons de la presse internationale, mais qui n'est donc pour le moment que fixeur. Alors, être fixeur, qu'est-ce que c'est ? Le fixeur est un collaborateur de l'ombre, sans réel statut, chargé de simplifier le travail des journalistes étrangers en traduisant et en organisant les rencontres, voire parfois en leur proposant des sujets. Lorsque Radu apprend que deux Roumaines mineures viennent d'être rapatriées depuis la France, où elles étaient forcées de se prostituer, il voit là l'occasion d'un scoop unique et propose le sujet à deux reporters français. Mais la jeune fille qu'ils veulent interviewer est protégée par la justice et par l'Église, et Radu va devoir user de toute sa ruse pour obtenir une interview. Alors, comme souvent dans le cinéma roumain, le protagoniste est traversé par un dilemme moral. Dans Baccalauréat de Christian Mungiu, c'était un honnête médecin contraint à la corruption pour le bien de sa fille. Ici, c'est un honnête journaliste à qui l'on demande d'instrumentaliser une jeune fille pour servir ses aspirations personnelles. Car si les journalistes en question mettent en avant l'intérêt de leur travail, qui permettrait de faire arrêter par exemple le proxénète, nul n'est dupe pour autant, c'est surtout l'appât du scoop qui les pousse à mettre de côté leur morale en exploitant le récit de la jeune fille sans aucune considération pour son traumatisme.
Elle est d'accord ou elle est pas d'accord ?
Non, elle est d'accord.
Elle est d'accord, alors de quoi tu me parles ?
C'est juste que moi, en tant que journaliste, je crois qu'on...
Non, c'est pas toi en tant que journaliste, c'est toi en tant que fixeur, Radu.
I hope you have the little girl.
Alors faut-il être journaliste pour saisir tous les enjeux de fixeur ? Pas nécessairement, mais force est de constater que le film est d'une justesse impressionnante. Dans la façon de dépeindre le travail des reporters, leur méthode aussi, parfois discutable, mais Fixeur parvient à humaniser ses personnages sans les excuser ni les juger. Si le cinéma a souvent glorifié les journalistes auparavant, Fixeur ne les dépeint pas du tout comme des héros, mais comme des gens qui travaillent tout simplement, sans trop parfois de considération pour les autres. Le casting aide grandement à la qualité du film, hein, notamment le comédien français Mehdi Nebout, que l'on avait découvert dans la comédie Joséphine, et qui trouve enfin ici un rôle à sa hauteur. Alors côté mise en scène, en revanche, hein, Citarou a encore quelques progrès à faire. Si la réalisation est inspirée, lorsqu'elle dissocie dialogue et image, elle peut également être très vilaine quand elle opte pour des zooms intempestifs et particulièrement voyants qui sont censés rappeler, on l'imagine, le style visuel des reportages télé. Mais Fixeur parvient aussi, et c'est très louable, à rendre hommage à la Roumanie, à sa culture, à ses habitants, ce qui en fait définitivement un film très intéressant et réussi eh bien, sur bien des plans.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, la semaine prochaine dans Cinérama, nous aurons encore une interview, celle de Christian Philibert, qui a fait un documentaire sur Massilia Sound System. Et il a été intéressable durant l'interview. On va essayer de couper tout ça.
Et moi, je vous parlerai eh bien, d'une sortie très attendue, Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson. À la semaine prochaine.